le nuage pourpre. Décidément, ma mémoire est bien affaiblie. Quel est par exemple le nom de ce pasteur qui, juste avant le départ du Boréal, prêcha que c'était une folie de vouloir tenter une nouvelle fois d'atteindre le pôle Nord? Oublié. Et pourtant, il y a 4 ans, son nom m'était aussi familier que le mien. Les événements qui précédèrent ce voyage ne sont plus qu'un souvenir assez brumeux. Me voici installé dans la loggia de cette villa de Cornouailles, où j'essaie de relater ce qui est arrivé. Dieu sait pourquoi, puisque personne ne lira ce récit. Et voilà que, dès le début, je ne peux pas me rappeler le nom du pasteur. C'était un homme plutôt étrange, un grand diable d'Écossais du Ayrshire, aux cheveux roux. On le rencontrait souvent par les rues de Londres dans son costume d'étoffe rugueuse, un plaid jeté sur son épaule. Je le croisais un jour à Holborn qui marchait à grandes enjambées, les sourcils froncés et parlant tout seul. À peine arrivé à Londres, il avait ouvert une chapelle, dans Fetter Lane, je crois, qui connut aussitôt une grande affluence. Lorsque, quelques années plus tard, il s'établit à Kensington, dans un local plus grand, on vit des gens de toutes sortes, même des Américains et des Australiens, se réunir pour entendre sa parole d'orage et de tempête. Pourtant, l'époque n'était pas particulièrement portée à s'enthousiasmer pour ce genre de prophète. Mais il possédait sans nul doute le pouvoir de réveiller les forces obscures qui dormaient dans les cœurs. Il avait un regard étrange, dominateur. Sa voix, qui n'était d'abord qu'un murmure, enflait comme une boule de neige qui roule sur une pente, pour tonner comme le fracas des banquises là-bas dans le Grand Nord. Ses gestes étaient aussi bizarres et excessifs que ceux d'un sauvage des temps primitifs. Voyons, comment s'appelait-il donc? McIntosh? McKay? Oui, je crois que c'est cela, McKay. McKay prit prétexte de la tentative de rallier le pôle Nord que le Boréal s'apprêtait à faire pour jeter feu et flamme. 3 dimanches de suite, à Kensington, alors que les préparatifs du voyage étaient presque achevés, il fulmina contre l'entreprise. À cette époque, les expéditions polaires échauffaient tous les esprits, car à l'intérêt scientifique qui poussait les hommes vers cette région inconnue, s'ajoutait un nouveau mobile 1000 fois plus puissant, l'argent. Ce zèle nouveau n'avait pas la sérénité du bon vieux temps. Le terrible démon Mammon avait maintenant son mot à dire dans l'affaire. Dans les 10 dernières années précédant la tentative du Boréal, pas moins de 27 expéditions s'étaient perdues corps et bien. Cette rage nouvelle était la conséquence du dernier testament de feu Charles P. Stickney de Chicago, ce roi des excentriques, qui passait pour l'homme le plus riche qui eût jamais vécu. 10 ans avant la tentative du Boréal, il mourut en léguant 175 millions de dollars à l'homme de n'importe quelle nationalité qui, le premier, atteindrait le pôle. La clause du testament était ainsi rédigée « L'homme qui atteindra le premier ». Ces termes équivoques avaient immédiatement provoqué, en Europe et en Amérique, une vive controverse. Le testateur voulait-il désigner le chef de la première expédition qui atteindrait le pôle ? Il fut finalement décidé, après consultation des autorités juridiques, que l'énoncé signifiait exactement que le premier individu, quelle que soit sa place dans l'expédition, qui, le premier, poserait le pied sur le 90e degré de latitude, aurait droit au magot. Bref, la fièvre était à son comble. En ce qui concerne le Boréal en particulier, les progrès de ses préparatifs étaient minutieusement relatés dans les journaux. Chacun avait son mot à dire sur son armement, et pour tout le monde, c'était un pari, un espoir, un sujet de plaisanterie ou de ricanement, car on sentait que maintenant, enfin, le succès était à portée de la main. C'est pourquoi ce McKay avait eu une telle audience. On l'écoutait avec une stupéfaction mêlée de cynisme. Il fallait que cet homme ait un cœur de lion pour oser proclamer un point de vue en contradiction si flagrante avec l'esprit du temps. Un homme contre 400 millions. Il ne cessait de répéter qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils étaient tous dans l'erreur. Les gens avaient fini par l'appeler Saint Jean-Baptiste le Ressuscité, et il était certain qu'il avait l'envergure d'un tel personnage. Je pense qu'au moment où il dénonçait l'aventure du Boréal, il n'y avait pas dans le monde entier un seul prince régnant qui n'eût désiré être embarqué à bord, même comme cuisinier. Le dimanche soir, où, pour la troisième fois, il fulminait contre l'expédition, j'étais là, dans la chapelle de Kensington. Je l'écoutais. Quelle fureur dans ses anathèmes! Son aspiration tenait du délire. Nous étions subjugués quand la voix prophétique s'élevait ou descendait comme le tumulte de l'orage. Tantôt un simple murmure, tantôt un éclat de voix tonitruant. Et ceux qui venaient pour se moquer en étaient médusés. Il affirmait qu'une fatalité pesait sur la conquête du pôle, et que la race humaine en serait la victime, que les échecs répétés de l'homme dans ses diverses tentatives en étaient la preuve, que ces échecs étaient une leçon et un avertissement pour l'avenir de l'espèce en péril. Le pôle Nord n'est pas si loin, disait-il, et les difficultés de sa conquête ne sont pas si grandes. L'ingéniosité de l'homme lui a permis d'accomplir mille choses mille fois plus difficiles. Malgré cela, malgré une demi-douzaine de tentatives au cours du XIXe siècle et 31 depuis le XXe, les hommes ne sont jamais parvenus à l'atteindre, quoi qu'on en ait dit. Chaque fois nous avons été repoussés, et repoussés non par le hasard, mais par quelque volonté délibérée. Le pôle est pareil à l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden, disait-il. Le reste de la terre est offert à l'homme, la terre est à sa disposition, mais il y a un lieu qui lui est interdit à jamais. Ainsi le père dit à son fils, « Pas là, mon enfant, va où tu veux, mais pas là. » Mais les gens sont libres de se boucher les oreilles et de fermer leur intelligence aux murmures et aux avertissements du ciel. L'homme se croit maintenant capable d'atteindre le 90e degré de latitude et de poser un pied impie sur le crâne de cette planète. De même, Adam croyait qu'il était en son pouvoir de toucher d'une main impie l'arbre de la connaissance, mais, continua-t-il de sa voix caverneuse, qui résonnait comme une terrible prophétie, de même que la désobéissance du premier homme avait plongé toute sa descendance dans les ténèbres, cette nouvelle entreprise obligera Dieu à se manifester par le tonnerre et par la foudre. La sincérité frénétique de l'homme, sa voix autoritaire, ses gestes désordonnés, ne pouvaient manquer d'impressionner ses auditeurs. Pour ma part, j'avoue que j'avais le sentiment d'entendre un messager du ciel. J'ajouterai cependant qu'à peine rentré chez moi, ce discours n'a pas laissé plus de traces en moi que l'eau d'une mare sur le dos d'un canard. Non vraiment, en ce 20e siècle, le prophète prêchait dans le désert. Saint Jean-Baptiste lui-même, avec sa peau de mouton sur le dos, n'aurait été accueilli que par des haussements d'épaules. Je cessai de penser à McKay en me disant que cet homme appartenait à un autre âge. Mais depuis, n'ai-je pas changé d'idée à propos de McKay? 3 semaines environ avant le prêche du dimanche soir, je reçus la visite de Clark, le chef de l'expédition. Une simple visite de courtoisie. C'était à mon cabinet médical, 24 Harley Street, où j'étais installé depuis un an. Bien qu'âgé de 27 ans à peine, j'avais déjà une clientèle d'élite, comme peu de médecins en ont en Europe. D'élite sans doute, mais peu nombreuse. Je pouvais certes tenir mon rang et fréquenter les grands de ce monde, mais il m'arrivait de traverser des périodes difficiles, et le récent succès de mon livre, Les rapports de la science et des arts, était venu à point pour renflouer mes finances. Au milieu de la conversation que nous eûmes cet après-midi-là, Clark me dit brusquement « Savez-vous à quoi j'ai rêvé la nuit dernière, Adam Jeffson ? Que vous faisiez partie de notre expédition ?» Il dut probablement remarquer que je sursautais. Cette nuit-là, en effet, j'avais rêvé la même chose, mais je me gardais d'en parler, et c'est en bégayant un peu que je répondis « Qui, moi, dans votre expédition, je n'irai pas même si l'on me suppliait d'en faire partie. » « Oh, je crois que si, » dit Clark. « Certainement pas, vous oubliez que je vais me marier bientôt. »« Eh bien, n'en parlons plus. Peter est en bonne santé, mais s'il lui arrivait quelque chose, c'est vous qui le remplaceriez, Adam Jeffson. » « Vous plaisantez, Clark, » répondis-je. « Je ne connais à peu près rien à l'astronomie et à la météorologie. D'ailleurs, je vais me marier. » « Mais vous connaissez la botanique, mon ami. Cela pourrait nous être utile. Quant à l'astronomie, que diable, pour un homme qui a vos connaissances scientifiques, ça ne doit pas être insurmontable. » « Vous avez l'air de parler sérieusement, Clark, » dis-je en souriant. « Jamais une pareille idée ne m'a effleuré. D'abord, il y a ma fiancée. Ah, la fameuse comtesse, bien sûr. Mais d'après ce que je sais d'elle, elle sera la première à vous inciter à vous joindre à nous. L'occasion de poser le pied sur le pôle n'est pas donnée à tout le monde, mon vieux. Parlons d'autre chose, dis-je. Il y a Peters. Bien sûr, il y a Peters. Mais croyez-moi, d'après mon rêve... Au diable vos rêves, fis-je en éclatant de rire. Oui, je m'en souviens, mais c'était un rire un peu forcé, car je savais déjà, dans le secret de mon cœur, que j'allais traverser une de ces crises qui, depuis mon enfance, ont bouleversé ma vie. D'abord ces deux rêves, puis lorsque je mis mes gants pour aller voir ma fiancée une fois Clark parti, j'entendis distinctement les deux voix que je ne connaissais que trop bien. L'une disait « Ne va pas la voir » et l'autre « Vas-y, vas-y ». Les deux voix qui se disputent ma vie. Si quelqu'un pouvait me lire un jour, il penserait que je suis soumis à deux impulsions contradictoires ou que je délire. Qui pourrait comprendre à quel point ces deux voix avaient de réalité, de force? Je les entendais sans pouvoir les situer, mais elles étaient plus proches que l'air que je respirais, elles faisaient partie de moi au même titre que mes mains et mes pieds. J'avais 7 ans quand elles se manifestèrent pour la première fois. C'était un soir d'été, je jouais dans un bois de pins qui appartenait à mon père. À 500 mètres de là, il y avait un précipice. Il me sembla que quelqu'un, une voix intérieure, me disait « Va te promener du côté de la falaise ». Et sur le même ton, une autre voix disait « Ne va pas de ce côté-là ». Ce n'était alors que des murmures. À mesure que je grandissais, elles devinrent plus fortes, plus contraignantes. J'allai donc au bord du précipice et je fis un faux pas. Quelques semaines plus tard, quand j'eus recouvré l'usage de la parole, je dis à ma mère, surprise de ce qui était arrivé, que quelqu'un m'avait poussé quand j'étais sur le bord et que quelqu'un d'autre m'avait rattrapé quand j'étais en bas. Une nuit, peu avant mon 13e anniversaire, alors que j'étais allongé sur un divan, j'eus l'intuition que j'aurais un destin exceptionnel. Mais je ne savais en quoi. Ces deux puissances qui se haïssaient mutuellement me harcelaient sans cesse, l'une voulant ma mort, l'autre que je reste en vie, l'une voulant que je fasse ceci ou cela, l'autre que je fasse le contraire. Je me sentais différent des autres, un être à part, voué à de grandes choses. J'avais déjà les idées, les humeurs, les instincts bizarres, les passions obscures que dut ressentir le premier homme qui se tint debout. Une formule telle que « le Seigneur, parlant à tel ou tel a dit » ne m'a jamais donné à réfléchir. La manière dont la voix avait été entendue me paraissait toute naturelle. Pour moi, il était évident que les premiers hommes avaient plus de deux oreilles, comme ont les bêtes et les médiums. Et ce ne fut pas une surprise lorsque je me rendis compte que je ressemblais un peu à ces hommes primitifs. Mais aucun être humain, sauf peut-être ma mère, n'a jamais imaginé que je deviendrais ce que je suis devenu. Extérieurement, j'étais semblable aux garçons de mon âge, studieux, sportif, fréquentant les clubs. Quand je dus choisir une profession, personne ne soupçonna la bataille qui se livrait au fond de moi, mais qui n'affectait pas mon esprit. Mes deux voix se disputaient, l'une m'ordonnant « Sois médecin !» tandis que l'autre me criait « Sois avocat ou artiste, n'importe quoi, mais pas médecin !» Je devins docteur après avoir fréquenté la meilleure des écoles de médecine, celle de Cambridge. C'est là que je fis la connaissance d'un curieux personnage nommé Scotland. Il avait des idées étranges sur le monde et parlait tout le temps d'une puissance noire et d'une puissance blanche. Il en devint ridicule au point que les gens l'appelaient l'homme du mystère blanc et noir. Un jour, en effet, quelqu'un avait parlé du mystère noir de l'univers et Scotland avait rectifié le mystère noir et blanc. Je me rappelle parfaitement Scotland. Il habitait Newcourt à Trinity. C'est là que nous allions le voir. C'était un esprit charmant qui adorait les chats, Sappho et l'anthologie. Il était de petite taille, avait un nez romain et faisait tous ses efforts pour se tenir droit et rentrer le ventre. Il affirmait que l'univers était sous la coupe de deux pouvoirs, que le blanc était le plus fort, mais que, sur notre planète, les conditions ne lui étaient pas favorables. Sa meilleure période avait été le Moyen-Âge en Europe, mais depuis, il avait dû, inexorablement, s'effacer devant le noir, qui devait finalement l'emporter. Peut-être pas sur toutes les planètes, mais cette Terre serait le lieu de sa victoire. Telle était la doctrine de Scotland, qu'il répétait comme une rengaine. Mes condisciples, qui l'écoutaient avec une certaine indulgence, ne soupçonnaient pas que j'étais suspendu à ses lèvres et que ses paroles firent sur moi une impression des plus profondes.